Ici l'ombre, la radio qui scie les barreaux.
Ici l'ombre, la radio de Concertina, sur 106.6.
Aujourd'hui, vendredi 30 juin 2023, au premier jour des rencontres Concertina, donc rencontres sur les enfermements, à Dulphy dans la Drôme. Alors ce matin, Jacques Viguet animait une conférence sur les cercles de silence, des cercles pour protester contre l'existence des centres de rétention administrative où sont enfermées des personnes étrangères en situation dite irrégulière. Jacques Viguet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont nés ces cercles de silence en France ?
Alors, la naissance a eu lieu à Toulouse, et donc on la connaît assez bien, même si je n'y faisais pas partie au moment de la naissance. C'est Alain Richard, un frère franciscain, et ses collègues de la communauté franciscaine, qui est formée peut-être 6 ou 7 personnes à l'époque, qui ont décidé qu'il fallait protester contre l'enfermement des étrangers dans les centres de rétention administrative, les CRA en abrégé, parce qu'ils considéraient que ça violait la dignité humaine, l'humanité de ces personnes qui n'avaient commis, pour la grande majorité, aucun délit. C'est encore le cas d'ailleurs maintenant. Et donc, ils ont commencé par créer un petit cercle comme ça, moins d'une dizaine, sur la place du Capitole en 2007, en octobre. Et bon, ce mouvement serait peut-être bien passé inaperçu, mais en décembre 2007, une réunion intergouvernementale avait amené plein de gens à Toulouse autour du 25 décembre. Donc ça a donné une visibilité nationale et internationale à ces cercles. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous savez que le thème des rencontres Concertina est le silence, justement, ou les silences. C'est en partie pour ça que vous avez été invité, j'imagine, à vous exprimer sur les CRA, qui sont évidemment des lieux d'enfermement au même titre que les prisons. Le silence, selon vous, Jacques Viguet, c'est une arme contre la privation de liberté, contre l'enfermement ?
Alors, dans l'état d'esprit du fondateur principal Alain Richard, le silence, d'après lui, était surtout une manière d'exprimer notre opposition, de réfléchir à l'intérieur de soi-même, que l'on soit croyant ou incroyant, à notre responsabilité vis-à-vis de ce genre de problème, et aussi d'éviter la cacophonie qu'il peut y avoir quand les gens ont des visions un peu différentes. C'est-à-dire que quand on est dans le cercle de silence, on ne dit rien, donc on ne risque pas de se disputer, d'être en désaccord. Si on est venu, c'est pour participer au cercle, voilà. Je ne crois pas que c'était lié au silence d'enfermement, hein, voilà.
Pour autant, les personnes qui participent au cercle de silence portent souvent des pancartes. Vous parliez d'une pancarte avec où c'était écrit « Notre silence est un cri ». Et puis, je crois que vous distribuez aussi des tracts contre les CRA, donc les centres de rétention administrative. Et pour le coup, là, vous expliquez aux gens ce que c'est et quelles sont ces conditions indignes d'accueil des étrangers.
Bien, tout à fait. On a l'impression que notre protestation n'est pas entendue par le gouvernement, qui veut encore augmenter le nombre de places dans les centres de rétention. Par contre, on a aussi maintenant la certitude que la grande majorité de la population ignore totalement ce que sont les CRA, les centres de rétention administrative, et l'importance de ce phénomène, le nombre de gens qui passent par an en France et dans les territoires d'outre-mer. Et donc, notre acte, en disant un peu aux gens leur permet de connaître. Il y a bien sûr quelques personnes qui savent très bien ce que c'est un CRA. On a même de temps en temps des gens qui disent « je sais bien, j'y suis passé ». Mais c'est très, très modeste. Par contre, évidemment, il y a aussi des gens qui refusent notre tract, soit bon, simplement parce qu'ils sont pressés, d'autres parce qu'ils sont manifestement opposés aux migrants. On a de temps en temps des phrases un peu agressives du genre « si vous aimez tant les migrants, prenez-les chez vous ». Enfin, voilà. Mais c'est quand même une rareté, hein. C'est l'essentiel des gens, quand on leur a expliqué ce que c'est, nous disent « c'est bien, continuez, c'est bien ce que vous faites ».
La non-violence, chère à Martin Luther King ou à Gandhi, c'est la méthode que vous avez choisie pour ces cercles de silence contre les CRA. Dans un monde où le rapport de force durcit parfois face aux injustices et aux inégalités, est-ce que vous pensez que ce mode de protestation a toute sa place aujourd'hui et à l'avenir ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça voudrait dire qu'on sait de quoi serait fait l'avenir. On ne sait pas, mais on espère que la non-violence est certainement la manière peut-être la plus efficace de défendre une cause juste, et simplement en respectant la démocratie. C'est-à-dire que c'est la seule manière que l'on a d'exprimer notre désaccord avec la politique suivie par l'État, par la politique acceptée par beaucoup de partis, de dire que on ne veut pas, mais on ne veut pas non plus, on ne se veut pas substituer à eux, proposer des solutions. On veut simplement dire qu'on est en désaccord et on le dit par le silence. Voilà. Et ça interroge les gens. Hein. Les gens qui passent autour de sur la place du Capitole, un certain nombre nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous là dans le silence ?» Voilà.
Votre revendication, c'est la suppression pure et simple des centres de rétention administrative. Pour autant, est-ce que vous participez aux luttes pour que les conditions de détention sur place soient améliorées ou que les enfants ne soient pas enfermés
On est très sensible à ces deux questions. On a un petit peu, une fois ou deux, fait des petites actions, envoyé des cartes postales aux gens enfermés pour le Noël, mais on n'a pas agi, et ça c'est peut-être un défaut, une faiblesse, mais on ne sait pas très bien comment améliorer le fonctionnement de ces centres de rétention. Cependant, nous avons invité pour commémorer nos 15 ans, là aussi avec retard, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui doit venir à Toulouse donner une conférence en fin d'après-midi le 7 juillet. Et on compte bien un petit peu avec elle évoquer avec la CIMAD qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer à faible coût, pour qu'au moins la rétention ne soit pas trop pénible. Est-ce qu'il y a des possibilités? Mais on a l'impression que c'est vraiment, cette rétention est douloureuse pour beaucoup de monde, parce que ce sont des migrants et on ne leur reconnaît même pas les droits des Français, des citoyens français. Donc l'accès à la médecine, tout ça existe, mais elle est un peu limitée. Voilà. On n'est pas très contents de nous-mêmes dans ce domaine. Mais...
Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des prisons.
Des
lieux de privation de liberté.
Les centres de rétention font partie, comme les hôpitaux psychiatriques et comme les prisons, de son domaine d'action. Et elle sort un rapport tous les ans. Et le communiqué de presse est disponible sur son site web. Et il est très dur pour la plupart de ces choses. Il y a un rapport long qui doit être édité, je crois, donc qui n'est pas disponible sur le web. Mais le communiqué de presse, qui fait quand même peut-être 20 pages ou 30 pages, décrit toutes les faiblesses du système et les critiques vigoureusement.
Peut-être quelques chiffres pour terminer, pour les personnes qui ne seraient pas forcément au courant. Il y a 25 CRA en France et en Outre-mer, oui. 90 jours maximum de rétention en théorie, et la possibilité ne fait qu'augmenter. Et puis 45 000, vous le disiez, personnes concernées par an. C'est évidemment énorme, et c'est à peu près le même chiffre que le nombre de personnes détenues, je crois.
Actuellement, il y a 72 000 ou 70 000 personnes dans les prisons françaises. Les CRA ne dépendent pas du ministère de la Justice, mais du ministère de l'Intérieur, pour des subtilités juridiques que je ne connais pas bien. Mais c'est quand même considérable de voir qu'il y a... c'est 50 000 personnes par an, c'est-à-dire que, puisque plus quelqu'un ne peut rester normalement que 3 mois dans un CRA, c'est un scandale, et c'est un scandale de grande ampleur. Et ce qui choque beaucoup d'entre nous, c'est l'enfermement d'enfants, même accompagnés de leur famille. La plupart le sont, mais on n'est pas sûr qu'ils soient toujours accompagnés de leur famille. C'est quand même encore 94 enfants liés à 57 familles en France métropolitaine, mais 2900 ou plus, 2905 ou je sais plus quoi, enfants à Mayotte qui sont passés dans les centres de rétention administrative durant l'année 2022. Et ça, c'est quand même un scandale inadmissible. C'est interdit par les règlements internationaux reconnus par la France, et la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France régulièrement pour ça. On en est à la 11e condamnation. Et en fait, il ne pourrait y en avoir bien d'autres si des avocats portaient devant cette cour tous les enfermements, la France serait condamnée tous les jours ou à peu près.
Le combat continue, Jacques Viguet, contre l'ECRA ?
Le combat continue. Ce n'est qu'une facette des problèmes liés à la vie des migrants en France, en Europe, mais le combat continue, et je pense qu'il continuera malheureusement longtemps, mais que c'est un combat qui est digne d'être mené, qui est vraiment important.
Merci beaucoup, Jacques Viguet.
Vous écoutez Ici l'ombre sur Radio-La.